Là, on a accès pour cette grâce qui me donne de venir partager le message avec vous. Je vous suis profitant pour cette opportunité. Alors, c'est vraiment une grâce. Partager la parole vivante de Dieu. Et parce que cette parole, c'est un esprit, elle est vie. Et ça, souvent, le corps peut être fatigué, souvent, l'âme peut être fatiguée. Mais en fait, notre esprit se réjouit face à la parole de Dieu. Et j'aime vraiment cette parole parce qu'elle vient comme un marteau pour briser le roc. Elle vient comme un feu. Elle vient comme une épée pour séparer, pour briser, pour, comme une lumière pour éclairer, pour montrer ce qui n'est pas bien, pour montrer ce qui n'est pas de Dieu. Ça nous permet de nous de prendre une décision et de se détacher de cela. Donc, c'est comme si ça nous réveille. C'est comme si ça nous rend plus sober. Ça nous rend plus conscient. Et c'est vraiment une bénédiction, la parole de Dieu. Donc, avant qu'on commence, priez pour Saint-Esprit, viens prendre contrôle, conduis-moi, conduis-nous, Seigneur, dans ce message, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que Jésus-Christ soit glorifié, Seigneur, bénissons ton nom, Seigneur Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est ce thème, comment combattre tes batailles? Comment combattre tes batailles? Alors, souvent, on ne se pose même pas ces questions. Souvent, on va juste en combat, on ne se demande même pas comment combattre les batailles. On fonce juste. Souvent, ce sont des choses que ça apprend, qu'on les apprend à l'école. Ce sont des choses qu'on les apprend quand on prend une formation. Même souvent, à l'église, on ne les apprend pas cela. Ce sont des choses qu'on a pu faire depuis qu'on est petit. Il y a certains systèmes, certaines choses qui sont déjà automatique, on se lance juste à l'intérieur sans même voir est-ce que c'est la bonne manière, est-ce que c'est les bons outils qu'on utilise. Vous savez bien que tout le monde ici sur cette terre font face au problème. Tout le monde. Un jour, je me rappelle, il y avait une personne qui était partie voir un homme de Dieu pour demander à prier. Sa prière, c'était le problème. Même Dieu okay, a dit qu'il veut prier pour te prier que tu meurs. La personne dit, non, 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 je n'ai pas dit qu'il veut mourir, vous pouvez avoir le problème. L'homme de Dieu lui a dit en fait, tant que tu es sur cette terre, tu as le problème. Tout le monde, quand il faut partir voir Jésus-Christ, qui n'a plus le problème. Donc, les problèmes sont là, c'est un fait. Ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau du travail, ça peut être l'école, ça peut être le mariage, ça peut être la santé. Il y a ces problèmes en fait qu'on fait face. La question qu'on doit se poser, c'est de savoir comment est-ce que nous les confrontons. Il y a ceux qui utilisent les moyens physiques. C'est-à-dire les intelligences, c'est-à-dire la sagesse, les choses physiques. Et certaines personnes qui rejettent Dieu, qui ne pensent pas que Dieu existe. Et ça, c'est un peu quelque chose de nouveau, les athées. Si on regarde bien dans les 1400, 1500, c'est là que ça a commencé. C'est un peu devenu populaire. Aussi avec le siècle Lumière, où les hommes ont commencé à faire des inventions, ils ont commencé à créer des choses qui n'avaient jamais vu avant. Que ce soit les appareils, les mécanismes qui sont plus forts que l'homme, que ce soit l'ordinateur, d'autres ont voulu remplacer Dieu et dire que Dieu n'existe pas, qu'ils n'ont plus besoin de Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'ils font face aux problèmes, ils résolvent certains problèmes, quand ils arrivent à un niveau, ils sont bloqués parce que le côté physique est limité. C'est limité souvent certaines personnes, dès qu'ils ne peuvent plus, ils prennent des médicaments. Certains se suicident. Qui n'ont pas pu causer ces problèmes. Ils sont bloqués, ce sont des victimes. Ce sont des victimes. Ils se plaignent, ils parlent. Parce qu'ils n'arrivent pas à surmonter ce problème qui est en face d'eux, avec les moyens qu'ils ont. Les moyens sont tellement limités. Et aussi le côté. Aussi certaines personnes, en fait, parce que Dieu les a, parce que Dieu pense que Dieu les a fait du mal. Ils sont fâchés contre Dieu. Ils rejettent cette idée même de Dieu. Bon, Dieu n'a pas exaucé. Dieu a laissé certaines personnes partir. Donc, ils ont une mauvaise expérience. Ils pensent que Dieu les a fait du mal. Ils se disent, mais si Dieu existait, pourquoi cette situation-ci est comme ça? Si Dieu existait, pourquoi cette personne est partie? Si Dieu existait, pourquoi c'est le même problème depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans? Où est Dieu? Si Dieu existait, pourquoi il y a des problèmes? Pourquoi les enfants meurent? Pourquoi il y a les innocents qui partent? Pourquoi il y a la famine? Les personnes se questionnent, ils sont fâchés contre Dieu. Ce qui fait qu'ils subissent. Ils essaient de les forcer pour surmonter les problèmes, mais ils subissent. Ils ont ces questions, ils rêvent d'aider de Dieu. mais ils n'arrivent pas à trouver la solution. Ils n'ont pas la solution, mais ils rejettent celui qui peut apporter la solution. D'autres tuent des moyens spirituels. Ils savent qu'en fait, le naturel est limité, qu'il y a un autre niveau, en fait, qui prend même dominance sur le plan naturel. Et ça, c'est plus sûr. Regardez bien, en Afrique, le côté de l'Orient, c'est une tendance qui a depuis des milliers d'années. Tu rentres un peu en Afrique. Ceux qui sont face au problème, si le plan physique est même plus difficile, ils savent, sur la tradition, sur la culture, ils vont partir sur le plan spirituel. Parce que le plan physique est avancé, parce que le plan physique dépend du plan spirituel. Donc, certaines personnes, la majorité des personnes, résolvent les problèmes à travers les outils, les éléments, les méthodes spirituelles. Mais là encore, il y a un danger, parce qu'on parle de plan spirituel. On peut accéder à cela d'une manière légale et d'une manière illégale. Parce que nous sommes exprimés, nous avons la main sur notre corps. Donc nous sommes sur le plan physique. Donc pour avoir cette dominance sur le plan spirituel, il y a un canal. Et sur le plan illégal, les gens, des hommes font des alliances avec des esprits méchants du monde spirituel. Ils font des échanges. Il y a cette transition. Actions. Et souvent, c'est par ignorance. Et après, ils se rendent compte qu'ils ont été dupés, ils sont là, dedans, à l'intérieur, c'est difficile de sortir. Donc, il y a cet échange. Je causais à une personne, c'est là quelques jours, la personne me disait qu'il n'était pas religieux, mais qu'il était spirituel, qu'il ne croit pas à la religion, mais qu'il est spirituel. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux dire spirituel? Il dit que lui, il fait la méditation, qu'il peut sortir de son corps, partir, revenir. Il dit, mais ça, c'est la preuve astrale qu'il faut faire attention, que tu es en train d'être séduit. Que c'est une séduction de l'ennemi. L'ennemi va venir pour séduire. Il va venir comme un ange lui-même, c'est quand la parole de Dieu le dit. Pour essayer de séduire les humains. Et qu'ils ont accès à ce monde spirituel illégalement, ils sont compromis. Et c'est pas eux qui sont compromis. Les descendants sont compromis parce que ces contrats qu'ils font. On m'a dit, donne ceci, donne cela, donne un dollar, deux dollars, trois dollars. Mais il y a une transaction qui va jusqu'à affecter l'enfant. Donc, pour voir des résultats temporaires, pour voir des résultats qui ont l'air d'être bons. Mais en fait, plus tard, il y a une barrière que ces personnes ne peuvent plus traverser. Il y a une prison dans laquelle ces personnes se trouvent. En fait, ça ne résout pas les problèmes, ça aggrave encore plus les problèmes. Donc, ceux qui sont axés dans ce plan spirituel pour résoudre les problèmes de manière illégale, les problèmes encore sont plus aggravés plus tard. Parce que cet échange, c'est pour détruire, parce que la Bible le dit dans Jean 10, si je ne me trompe pas, que Satan est venu pour détruire, pour tuer et pour voler. Donc, toutes les transactions avec le monde spirituel, avec Satan, ça n'est Satan. Soit c'est pour détruire, c'est pour voler, c'est pour tuer. C'est ça, Jésus-Christ a bien dit. Mais après, il dit, mais qu'il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Alléluia. Il est venu pour donner la vie en abondance. Il y a cette vie en abondance en Jésus-Christ. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Maintenant, on va basculer sur le plan spirituel du bon côté. Il y a certaines personnes qui connaissent le Seigneur. Certaines personnes qui connaissent Dieu. Certaines personnes qui ont accepté Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous donne toute cette autorité de dominer sur les puissances maléfiques. L'autorité de dominer sa création, cette autorité de changer les choses qui ont des guigons qui vont impacter le plan physique. Donc ces outils, on en parle un peu dernièrement, on a un peu des armures de Dieu. On ne va pas trop entrer en profondeur là-dedans aujourd'hui, mais on va parler des conditions. On va commencer par les conditions. Avant qu'on parle de ces outils, avant qu'on parle de ce qui nous permet, comment on met notre combat, comment on met un combat victorieux. On va parler des conditions. Donc, ceux qui ne croient pas, ceux qui sont bloqués face à des problèmes, ceux qui sont des victimes, mais ceux qui ont pris un mauvais chemin pour être à l'ennemi, Ce message pourrait rappeler de revenir à Jésus-Christ. De revenir à Jésus-Christ parce que c'est lui la vérité. C'est lui le chemin. C'est lui la lumière. C'est en lui qu'on mène un combat victorieux. Ce n'est pas hors de Jésus-Christ. Les temps sont venus. Ils ont été marcher la victoire. Mais on parle des conditions. Quelles sont ces conditions même avant même d'opérer, avant même d'avoir ces outils? Il y a des conditions. Il y a des prérequisites. Il y a des nécessités qui doivent être faites. Et bien aimé, ça ne dépend pas des titres. Ça ne dépend pas des titres qu'on a. Parce que même les apôtres, si vous vous rappelez bien, la Bible dit, Jésus-Christ, avant qu'il ne meure, avant qu'il ne revienne, il avait les apôtres, il avait nommé les douze apôtres, apôtres. On les appelait apôtres, on les appelait disciples. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont connu des défaites. Et ils ont connu des défaites violentes étant apôtres. Ils n'avaient pas compris, en fait, quelles sont ces conditions nécessaires pour marcher de la victoire, pour te suivre Jésus-Christ. Et qu'ils voulaient cette défaite, ce fait qu'ils ont rejeté Jésus-Christ, le fait qu'ils ont laissé le foi, quand Jésus-Christ a été crucifié, quand Jésus-Christ a été arrêté, ils ont été dispersés. Les titres d'apôtre, ils ont pris, ils ont mis de la poche. Ils sont repartis faire le travail qu'ils faisaient avant. Ce sont les pêcheurs, c'est qu'ils ont, ils sont partis faire cela. Une défaite, arrêter la foi. Ils sont cognés contre un mur. Ils n'ont plus vu le futur. Non, c'était carrément une défaite. C'est pas parce qu'on n'a pas pu chasser les démons, ce sont des défaites temporaires. Mais une défaite quand tu lâches ta foi, ça c'est dangereux. Ils étaient les disciples de Jésus-Christ. Ils suivaient Jésus-Christ. Ils ont reçu cette défaite. Ils ont abandonné Jésus-Christ. Ils ont lâché, ils ont fui. Les mecs ont été arrêtés. Et beaucoup d'entre nous peuvent être dans cette catégorie. Vous avez décidé d'être chrétien, vous êtes venu comme... Vous avez dit, oh, c'est là. On m'a dit que c'est le chemin, que c'est ça. Vous êtes venu... Peut-être que vous êtes des teachers à l'église, ou bien vous êtes des enseignants à l'église, ou bien vous avez des postes, tout. Ou bien vous êtes même des disciples, des disciples en formation. On se rend compte que il y a certaines choses qui sont bloquées. Il y a certaines choses qui n'avancent pas. Il y a certains combats où vous ne voyez pas la sortie. Vous ne voyez pas la victoire. Vous n'êtes pas les seuls. Les apôtres étaient dans cette situation avant Jésus-Christ. Vous n'avez pas compris. En fait, le problème, c'est qu'ils n'avaient pas compris qui était Jésus-Christ. Ils n'avaient pas compris le prix à payer pour suivre Jésus-Christ. Ils n'avaient pas compris, en fait, ce que signifie être un disciple de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'ils ont failli, c'est pour ça qu'ils sont dispersés, c'est pour ça qu'ils sont tombés. Ils n'avaient pas compris ce que signifie être disciple de Jésus-Christ. Et beaucoup d'entre nous ne comprennent pas ce que signifie être disciple de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça veut dire marcher comme Jésus-Christ a marché? Connaître Jésus-Christ et suivre Jésus-Christ. Les disciples n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris ce que signifie suivre Jésus-Christ. Ils pouvaient peut-être vous dire, peut-être que proclamer, mais ils n'expérimentaient pas ça. Ils ne marchaient pas dans ça. On peut avoir une connaissance de quelque chose, une connaissance d'un domaine. Mais l'application, c'est zéro. Mais il vient proclamer que Jésus-Christ est le Messie. Mais il ne savait même pas ce que signifie être le Messie. Il ne savait même pas qui était Jésus-Christ. Il a dit que c'est le Messie. Mais c'est pas ce que ça veut dire, ce que ça représente. Donc peut-être qu'il ne pouvait pas le suivre. Comment peut suivre quelque chose qu'on ne comprend pas? Il avait une idée différente. Les conditions pour mener un combat victorieux. Vous voyez bien, mais avant que Jésus-Christ n'arrive, Israël, les disciples, avaient une idée du Messie. Donc, ce n'était pas la première fois qu'ils attendaient le Messie. Donc, quand, ce n'était pas pour eux quelque chose ils avaient déjà entendu le Messie. En fait, avant que Jésus n'arrive, il y avait des gens qui étaient venus avant Jésus-Christ. Ils se disaient se proclamer le Messie. Il y avait une dynastie, une personne qui a commencé, les enfants, ses enfants, ses enfants. Ils sont venus, en fait, ils ont délivré Israël, la main de l'emprise romaine. Israël, ils ont vécu un temps de liberté temporaire, c'était parce que temporaire. Après, le Rome est encore venu pour reprendre le pouvoir. Et ces personnes, on les voyait comme des messies, on les célébrait. Parce qu'ils ont apporté cette liberté à Israël. Et les disciples avaient cette même pensée de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'ils étaient prêts à combattre. Quand on est venu arrêter Jésus-Christ à Gethsémani, mais qui était prêt? Parce qu'avant ça, Jésus-Christ a dit, prenez les épées. Donc, ils étaient prêts. Donc, c'était ça l'idée qu'ils avaient. Ils entraient à Jérusalem, mais c'était pour le mettre au roi. On criait le roi, le roi, le roi. Donc, c'était l'idée qu'ils avaient pour partir délivrer Israël. Mais quand Jésus-Christ a dit à Pierre, arrête, garde ton épée. Mais lui, c'est dans sa tête, c'était déjà, mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment ça garde mon épée? Les disciples étaient sidérés, mais qu'est-ce? Mais attendez, où est cette conquête? Mais il se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Ils n'avaient pas compris. Même étant disciple, n'avait pas compris ce qu'il veut dire sur Jésus-Christ. Parce qu'ils avaient déjà cette idée, avant même Jésus-Christ n'arrive, du Messie. Comment le Messie doit opérer? Qui est ce Messie? De nos jours, il y a beaucoup de gens qui sont venus très christianistes à plusieurs portes. Ils sont venus par des miracles. Ils sont venus parce qu'on les a amenés à l'église, on les a promis à manger. Ils sont venus parce que les parents étaient dans l'église, ils sont aussi devenus chrétiens. Ils sont venus par des guérisons. Il y a plusieurs portes, il y a plusieurs fenêtres par lesquelles les gens sont venus. Mais dès qu'ils arrivent, ils ont une compréhension. Il n'est pas qui un peu similaire à ses disciples. Il ne capture pas, il ne voit pas tout le plan général, mais la route générale d'un disciple de Jésus-Christ, d'une personne qui te suit Jésus-Christ. Ils ne comprennent pas aussi ce que Jésus-Christ, les étapes que Jésus-Christ a suivies comme un blueprint, comme un template que nous devons aussi suivre. De la même manière que Jésus-Christ, les disciples appelaient Jésus-Christ Seigneur, Messie, Teacher, Enseignant. On appelle aussi de cette manière. On ne comprend pas ce que ça signifie pour le suivre. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont dans le foie avec cette idée. Ils marchent, ils marchent, ils marchent, ils font aller ces situations, ils arrivent à un blocage. Jésus dit, mais cette affaire des christianisme, mais ça c'est quoi? Il te dit que ça ne marche pas. Il faut qu'ils mettent un pied dehors. Je pourrais un peu voir. Ils ont entendu parler d'un marabout qui est très puissant. Pourquoi tu vas un peu voir le marabout pour tâter à gauche, tâter à droite, taper devant, taper derrière. Parce qu'ils n'ont pas compris leur identité en tant que disciples. Ils n'ont pas compris qu'est-ce que ça veut dire être disciple. Ils n'ont pas compris les positions. Ça parle de position. Ils n'ont pas compris cela. C'est pour ça qu'ils sont un pied derrière, un pied dedans, un pied dehors. Ils gagnent un, deux, trois combats, quatrième combat, cinquième combat, ils campent la forme pendant longtemps. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, Marc, l'évangile de Marc a écrit son évangile, en fait. C'était pour ça des personnes. L'audience principale de Marc, c'était les églises qui étaient en Rome, qui faisait face à des persécutions de l'empereur Néron. Mais ils étaient face à des persécutions, aux situations qu'ils ne comprenaient pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a de christianisme? Pourquoi ces persécutions? Mais ça, je pensais qu'on devait marcher à la victoire de Jésus-Christ. Je pensais qu'on devait, Jésus-Christ a tout payé à la croix. On n'a plus besoin de souffrir. Il a pris nos souffrances. Il a tout payé. Mais quelle est cette situation? Ils ne comprenaient pas. Et le Marc a écrit en fait cet évangile pour ces personnes, pour qu'ils comprennent un peu mais qui est Jésus-Christ et comment le suivre. C'est ça l'idée. Un des thèmes principaux. Je vais lire ceci. La qualité de nos combats ou nos victoires dépendent étroitement. C'est une corrélation directe avec la compréhension et l'application que nous avons en tant que disciples de Jésus-Christ. Donc, la manière dont on va marquer la victoire de Jésus-Christ, ça va dépendre de notre compréhension et application de qui est Jésus-Christ et comment on marche comme son disciple. Parce que si on ne comprend pas cela, ça sera difficile. Ça sera difficile. Si on ne comprend pas cela, il y aura des murmures. On va commencer à questionner Dieu. Oh, Dieu pensait que tu étais avec moi. Oh, Dieu pensait que tu m'as donné ta victoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Je pensais que tu as dit que tu es devenu, tu as tout payé pour nous. Donc, on devait nous marcher dans la victoire. Il y aura des murmures. Parce qu'on n'a pas compris notre identité comme disciple. Donc, quand on se demande comment menez-vous, comment mener nos combats, ça fait appel à une position, ça fait appel à une référence. Quelle est notre référence? Quelle est notre position? Où est-ce qu'on s'assoit? Est-ce qu'on est incliné? Est-ce qu'on est enraciné en Christ? C'est pas juste croyant. Ça ne s'arrête pas juste à croyant. Les croyants auront des difficultés pour vraiment marcher la victoire. Ce sont des disciples. Matthieu 28, Dieu n'a Jésus-Christ n'a pas dit, partez faire des croyants. Il y a des croyants qui ne sont pas des disciples. Il y a des croyants qui se rebellent. Et qui savaient que les croyants ne marchent pas pour demander la victoire. Allez faire des disciples. Ils veulent voir des disciples. Ce sont des disciples qui marchent dans cette victoire. Et ce n'est pas juste dans le monde. Dans l'église, mais le monde applique ce genre de principe. C'est pas juste dans, c'est pas juste dans l'église. Si vous voyez, quand vous avez un travail, que ce soit les ressources humaines, que ce soit informatique, que ce soit ingénieur, avant même qu'on vous demande de travailler, avant même qu'on vous touche le clavier, avant même que vous ne preniez l'appareil, ils ont ce qu'ils appellent orientation. Quand ils vous font une orientation, les gens du HR viennent vous parler, les gens des ressources humaines viennent vous dire à propos de la compagnie. Ils vous disent quelle est la vision, quelle est la mission, quelle est l'identité, quelle est la culture. Ça, c'est la première chose avant même que vous ne travaillez. Qui veut vous positionner que quand vous travaillez, comme vous travaillez maintenant avec cette culture, vous travaillez maintenant avec cette vision. Vous devez mettre ça avec cette mission. Ça va se sentir dans le travail. Ça vient premièrement, c'est la même chose. Avant qu'on entre dans le combat, avant qu'on nous couvre dans le combat, on doit comprendre la culture du royaume. On doit comprendre quelle est cette... ce que ça veut dire être un disciple. Quelle est cette culture du royaume. Donc, examinons-nous. Regardons-nous. Est-ce que nous sommes vraiment des disciples de Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes les vrais disciples de Jésus-Christ? Si ce n'est pas le cas, nos victoires seront limitées. Nos victoires seront limitées. Et Marc, le livre de Marc insiste par rapport à cela pour montrer à ces églises de Rome et aussi à nous quel est le prix à payer pour être un disciple. Il y a un prix à payer pour être disciple. Ce n'est pas juste tout sera parfait, tout sera bien, tout sera... Non. Quand vous entrez, il y a souvent, on vous prêche de cette manière. Quand le prédicateur utilise cela, c'est bon pour vous faire entrer. Mais quand vous entrez, asseyez-vous. et recevez maintenant plus d'éducation, plus d'enseignement. Parce que ce n'est pas juste ce côté-là. Mais aussi le côté de la persévérance, aussi le côté de désapprécier. Donc, l'accent que en fait, Marc met sur la forme des disciples, c'est pour, je veux, ça c'est une quotation que De Silva, l'auteur, c'est De Silva. Voici ce qu'il dit, c'est vraiment important. Il dit que l'action mise sur la forme du disciplinat doit nécessairement suivre le modèle du Messie rejeté et exécuté. Donc, De Silva dit ceci, que cet accent que Marc met sur comme être disciple de Jésus-Christ, qui en fait c'est pour suivre le modèle de Jésus rejeté et exécuté. Et beaucoup n'ont pas cette caméra, n'ont pas cette compréhension. Et ce qui manque aux disciples, c'est qu'il a fait l'objet de l'effort, parce qu'ils ne voyaient pas le Messie être exécuté. Ils ne voyaient pas le Messie souffrir. Ils ne voyaient pas le Messie être rejeté. Donc, quand cela est arrivé, c'était dépassé. C'est là qu'ils se sont arrêtés. C'est cela la ligne. C'est là qu'ils se sont arrêtés. Et c'est cela que beaucoup s'arrêtent dans nos vies. C'est là que beaucoup s'arrêtent aussi en ces moments, dans notre génération. Quand on parle d'être rejeté, quand on parle d'être dans les persécutions, qu'on parle d'être dans les situations difficiles, qu'on parle d'être dans les vallées.
Je dis, mais c'est quel genre de christianisme ça encore? Et que c'est une biblique.
Donc, dans nos jours, il y a aussi beaucoup qui ont cette compréhension. Cette compréhension qui est un peu déformée, ce qui veut dire d'être disciple de Jésus-Christ. Donc, il peut être une route qui est différente pour marcher dans la victoire en Jésus-Christ. Donc, on doit suivre ce que Jésus-Christ a fait. On doit suivre ce qu'il a fait. Et beaucoup pouvaient dire que maintenant, ça, c'était... Ça, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique ce que tu dis. Ce sont les hérésies. Jésus-Christ a tout payé. On ne doit plus souffrir. Il a payé le prix. Il a juste marqué à sa victoire. Je vais lire un passage. Alors que je vais lire, voici ce que Jésus-Christ a dit. C'est un peu aussi dit que je suis censé régner. Je suis censé enjoy les bénédictions. Des bénédictions qui sont des lieux célestes, ils sont censés nager dans cela. Mais voici ce que Jésus-Christ lui-même a dit. Et que si le maître est persécuté, l'élève aussi sera persécuté. Mais il parlait ça à ses disciples. Mais en fait, il est en train de dire que mais si lui, il est persécuté, vous n'êtes pas plus grand que lui. Vous aussi, vous serez persécuté. Il l'a annoncé. Et souvent, l'Église ne veut pas prêcher cela. L'Église veut mettez ça de côté et parlez, prêchez sur les bénédictions. Vous serez bénis, vous serez doublement bénis, vous aurez une double onction, vous serez triplement bénis de marcher dans l'abondance. Ok, c'est bien. Mais aussi notre partie, vous faites l'équilibre. Je veux que ça parle des deux. Et c'est pour ça qu'il y a un déséquilibre. Et quand on fait face aux situations maintenant qui sont devant nous difficiles, ça n'avance pas. Parce qu'on n'a pas reçu l'enseignement par rapport à la persécution qui est importante, qui est biblique. Paul dit dans Philippiens 3, 10 à 11. Il est dit, afin de connaître Christ, je lis, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort ou à venir. Si je puisse à la résurrection d'entre les morts. Ici, il parle des deux. Il parle de la résurrection, il parle de la puissance de sa résurrection, il parle de la communion avec ses souffrances. On ne veut pas écouter cela. Bien-aimé, la voix d'un disciple de Jésus-Christ et la souffrance à l'intérieur. C'est biblique. Jésus-Christ l'a dit. Il y a des moments difficiles. Donc, soit dans ces moments, ne pensez pas, oh, je ne suis pas de la volonté de Dieu. Peut-être que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Peut-être que j'ai trop péché. Souvent, ce n'est pas que tu as péché. C'est le chemin à prendre. Est-ce que Jésus-Christ avait péché? Jésus-Christ n'a pas péché. Est-ce que Paul, on n'est plus qu'un apôtre, qu'un évangéliste, qu'un missionnaire, il est passé dans cela? Et souvent, ce sont nos bénédictions qui sont derrière ces tribulations, qui sont derrière ces souffrances. Donc, on prie pour les bénédictions. Et on se dit, OK, il faut ouvrir les portes pour les bénédictions. Mais qu'on ouvre ces portes, une résistance. On prie au Seigneur, enlève la résistance. Pourtant, c'est cette résistance qui nous permet d'amener, de partir aux bénédictions. Il dit, Seigneur, enlève-moi ce chemin. Change-moi le chemin. Mais si on change, et les bénédictions. Et ces bénédictions, souvent, c'est pour te bénir, mais c'est pour bénir les autres. Et tes familles que tu veux bénir. Le Seigneur dit, reste. Reste. Donc, à travers ce processus, il y a quelque chose de formidable qui sort. Il y a un fruit qui va sortir. Il y a une formation qui va sortir. Il y a un témoignage qui va sortir de cela. 2 Corinthiens 11, 23, 28. Paul parle de son résumé. Paul parle de son résumé. C'est Paul qui le dit. Sont-ils ministères de Christ? Je parle à un homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de vierge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la mine. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves. En péril la part des brigades. En péril la part de ceux de ma nation. En péril la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les frères. Ça continue, voilà son exposé, voilà ce que Paul a vécu. Donc c'est biblique. Donc étant disciple de Jésus-Christ, il y a ce parcours qui est devant nous. Il y a ce parcours qu'on doit comprendre. Donc quand on fait face à ces situations, nous sommes dans ce parcours, on doit comprendre en fait que dans ces situations, il peut y avoir la souffrance, il peut y avoir la persécution, mais ils sont censés marcher et traverser cela. Souvent, quand il y a le torrent, souvent quand il y a des vagues, ce n'est pas que les vagues vont partir. Souvent, c'est dans les vagues qu'on a notre victoire. C'est dans ces torrents qu'on glorifie le Seigneur Jésus-Christ et qu'on soit étant victorieux. Ce n'est pas qu'en fuyant. Donc, certains, beaucoup, arrêtent le développement des disciples, le développement pour grandir en maturité en Jésus-Christ. Parce qu'il n'a pas compris que ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus. Là, c'est une compréhension qui est importante. Pour finir avec cette partie, cette introduction, en fait, si vous voyez comment Marc présente son évangile, les disciples avant n'avaient pas compris qui était Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'est pas venu directement pour lui dire qu'il était le Messie, qu'il était Dieu. Parce qu'il ne veut pas comprendre, il ne veut pas comprendre les conditions, les nécessités pour le suivre. C'est juste, c'est à la croix, c'est après la croix qu'ils ont compris cela. C'est après la croix qu'ils sont maintenant entrés dans ce monde de victoire. Donc ils ont suivi qu'en fait, oh, il y a ce parcours à faire. Il y a ce parcours à faire. Et même Paul, même Pierre, même entre les morts, il a compris. Donc on a compris cela. Ce que signifie d'être disciple, les conditions. Paul, Jésus-Christ s'est dit qu'on doit le mettre premier dans tout. Il ne doit pas être la passe numéro 2, la passe numéro 3, la passe numéro 4, la passe numéro 5. Non, mais Jésus, il dit qu'il doit être le premier. Il doit être le premier. Qu'il soit dans la famille, il doit être le premier. Il y a les gens qui le mettent à la main arrière. Il y a des gens qui me disent qu'ils comprennent de secours. Quand ils sont dans le monde, ils sont dans le monde, ils sont dans le monde. Et quand ils ont un accident, qui prennent pas de secours. C'est... Mettons Jésus-Christ à sa place dans nos vies. Positionnons Jésus-Christ comme premier. C'est là maintenant qu'on sera positionné, enraciné pour combattre. Et pour mener victoire, les combats victorieux. Mais on va entrer dans le verset principal. Le verset principal, c'est Marc 15 à 41. Dans la partie 1, on va sûrement voir la partie 2 prochainement. Je pense pas qu'on aura le temps pour la partie 2. Dans la partie 1. Donc, avant cela, Jésus-Christ parlait de paraboles. Dans Marc, à partir de 36, c'est une autre session. Donc, c'est une autre partie. On va trouver dans le même chapitre. Chapitre 4. On va commencer avec 35. Allez, ceci. Ça va nous montrer, en fait, on va zoomer comment Jésus-Christ fait. comment Jésus se comporte face aux situations. On va aussi zoomer comment les disciples se comportent face aux situations. Parce qu'il y a beaucoup qui sont comme les disciples en ce temps-là. On va copier ce que Jésus-Christ a fait. Il va nous permettre d'être plus, d'opérer plus d'une manière stratégique dans nos combats. Texte 35. Ce même jour, ce le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Mais ici, Jésus-Christ a parlé. Il a fait une déclaration. Donc, sa parole est esprit, sa parole est vie. Il est Dieu. Il a dit, passons à l'autre bord. Dans le spirituel, c'est fait. Il connaît la fin avant le commencement. Les disciples, ils sont partis, ils n'ont pas douté. En fait, ils sont partis, ils ont suivi Jésus-Christ. Ils ont suivi ce que Jésus-Christ a dit. Vous allez voir plus tard qu'en fait, cette parole n'a pas demeuré en eux. Ces paroles n'ont pas demeuré dans les disciples. Au départ, c'était là, mais après, ce n'était pas là. C'est pour ça qu'il a dit aux Juifs, ils ont dit aux Juifs, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaissez la vérité, la vérité vous affranchira. Donc, c'est important quand on reçoit une parole, de demeurer dans cette parole. Est-ce que nous croyons aux paroles que le Seigneur nous a dit? Le Seigneur dit certaines choses. On néglige, on met à côté, on oublie. Nous sommes très excités dans le moment, mais après, on oublie. Est-ce que nous croyons? Est-ce que nous la gardons avant qu'on ne va dans un combat? Le Seigneur que la parole nous dit, ce sont les paroles qui sont précieuses. Parce que ce sont ces paroles qui vont nous aider pendant ce combat. Si on oublie ces paroles, vous allez voir les disciples, la réaction des disciples seront similaires aux réactions qu'on fait souvent parce qu'on a oublié ce que le Seigneur nous a dit. Et ceux qui n'ont pas ces paroles, priez, cherchez la face du Seigneur pour avoir cette parole de direction, ces paroles d'assurance et gardez-la. Souvent, on oublie même ces paroles. On a des difficultés dans les tempêtes. Et c'est après, plus tard, quand la tempête est finie, qu'on se rappelle que, ces paroles que le Seigneur m'avait dit, on se rend compte que ces paroles étaient notre clé. Ces paroles sont toujours là. Ces paroles s'est réalisées. Donc, bien-aimé, rappelons-nous ce que nous a dit. Car Dieu n'est pas un homme pour se maintenir, le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit est vrai. Donc, avant d'aller au combat, ayons nos paroles. Cherchons la face de Dieu pour avoir cette parole. Verset 35. On va passer au verset 36. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec Jésus-Christ. Ceci est important. Ça va se dire que Jésus-Christ était avec les disciples. Un bien-aimé, Jésus-Christ est avec vous. Dans vos situations, dans vos combats, c'est pas dans quel moment vous que vous trouvez. Jésus-Christ est avec vous. Si vous y croyez, si vous êtes des disciples, vous avez mis la foi en Jésus-Christ, il est avec vous. Vous n'êtes pas seul. Rappelez-vous cela, vous ne combattez pas seul, Jésus-Christ est avec vous. Si on se demande, où est Jésus? Il est là, il est avec vous. Si vous ne le sentez pas, mais il est là. Est-ce qu'on sent le sang? Le sang coule en nous, mais on ne le sent pas. Le sang est là. Jésus-Christ est là. Acceptons ça par la foi, c'est la vérité. Et si les disciples, Jésus-Christ est avec les disciples. Verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Jésus était sur la mer. Un grand tourbillon s'est levé. Ici, il faut qu'on souligne le mot tourbillon parce qu'on va parler de ça plus tard. Un grand tourbillon s'est levé. Et si on rentre un peu dans le contexte ici, il y a certains commentaires un peu qui disent que dans cette région-là, il y avait beaucoup de tourbillons qui passaient souvent. Mais dans ce cas-ci, il faut savoir qu'on lit les versets souvent que Jésus-Christ partait quelque part. Il partait délivrer un homme qui avait des milliers de légions de démons. Il ne partait pas juste pour visiter. Il avait une mission. Et l'ennemi savait qu'il était déjà, défié. L'ennemi savait déjà que cet homme devait être délivré. Donc, cette tourbillon, c'était pour empêcher Jésus-Christ d'arriver. C'était pour empêcher Jésus-Christ de les chasser de cet homme. C'était une attaque. C'était une attaque. C'est pas une doctrine, mais beaucoup, souvent beaucoup de temps, les problèmes de qu'on fait face, ces problèmes cachent une délivrance. Ces problèmes cachent une bénédiction.
Toi, c'est quand on commence à prier pour certaines choses, c'est quand on commence à demander certaines choses, et quand on commence à voir, à demander ce que Dieu a prévu pour nous, c'est là que les problèmes commencent. On te dit, mais qu'est-ce que c'est parce qu'est-ce que je fais? Non, ce n'est pas que tu as fait quelque chose, c'est qu'il y a une bénédiction qui t'attend. Il y a une délivrance qui t'attend. Tu es sur le chemin. L'ennemi se lève, il veut te combattre parce que tu es en train de marcher sur le chemin de ta délivrance, tu es en train de marcher sur le chemin de tes bénédictions. C'est pour ça qu'il y a le combat. C'est ce qui s'est passé ici avec Jésus-Christ. Donc, derrière ces problèmes, bien-aimés, souvent, il y a des bénédictions. Souvent, il y a des bénédictions. Souvent, c'est le prix pour ces bénédictions. Donc, ne demandez pas au Seigneur, « Oh, Aleph, Aleph, cela, je veux faire demi-tour. » Nous savons que ça fait aussi partie du processus. Et danser face à cet oublion, on a la victoire en Jésus-Christ. Donc, l'ennemi, dans ce cas, il savait que son temps était déjà là. Il savait que son temps était déjà là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé la nature contre Dieu. Il a utilisé la création de Dieu pour combattre Dieu. Il a utilisé le tourbillon, la créature de Dieu. C'est que Jésus qui lui-même a créé. C'est lui qui a créé. C'est lui, il est Dieu. C'est ça qu'il a utilisé contre lui. Ah. Même dans une vie, vous avez réalisé que l'ennemi utilise les choses qui nous appartiennent pour le combat. Ou bien les choses qui sont près de nous, qui sont la famille. Mais je demande à notre famille pour nous combattre. Les bénédictions que nous ont données, c'est ça qu'il va utiliser pour nous combattre. Que ce soit le travail, il ne va pas chercher loin. Il voit les choses qui sont à côté, les choses qui nous appartiennent. C'est ça qu'il va chercher à déjouer pour nous combattre. Adam et Eve, manipuler Eve pour qu'Adam tombe. Ce sont les choses qui sont tout autour. C'est ça, c'est pour ça que Jésus-Christ me dit, veillez. Veillez, veillez, veillez. Veillez. Même stratégie. Même stratégie. Continuons. Verset 38. Et lui, donc là, il y a un problème qui se pose. On parle comment combattre vos combats. Il y a un problème ici qui se pose. Il y a un tourbillon qui s'est levé. Et Jésus-Christ, verset 38, dit ceci. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ici, en fait, ce que les disciples disent, ça révèle un peu les ignorances par rapport à l'identité de Jésus-Christ. Ça révèle en fait que, premièrement, d'abord, ils ont oublié la parole que Jésus-Christ les a dit. Jésus-Christ dit, allons à l'autre bord. C'est déjà fait. Mais maintenant, ils sont formulés. S'ils ne s'inquiètent pas, que nous périssons. Souvent, notre langage contraint ce que Dieu a dit dans nos vies. On ne fait pas cette situation, on demande à Dieu, pourquoi tu m'as mené ici? Pourquoi c'est comme ça? Change comme ça. Je ne veux même plus. Et t'as dit, si on regarde notre langage, ça contredit ce que Jésus-Christ a dit. Pourtant, le spirituel, c'est déjà accompli. Je dis, il vous est spirituel, c'est fait, c'est fini. La prière, c'est accordé. Mais ce qu'on dit, c'est bien contredit. Je viens annuler. Je viens me chasser les gens. Ça veut dire que l'atmosphère me les chasse juste parce qu'on dit des choses, on dit des choses, on dit des choses. C'est ce que les disciples ont dit. Nous périssons. Je vais encore lire notre passage de Sylvain. Voici ce qu'il dit. Et si les disciples ne comprennent pas l'identité de Jésus, ils ne disent pas sauve-nous, Seigneur, nous périssons. Mais ils disent ne vous souciez-vous pas que nous soyons sur le point de sombrer? Il n'a pas dit eux, il a dit nous, c'est-à-dire inclut Jésus-Christ. Nous, donc eux, les disciples de Jésus-Christ, c'est qui dit Jésus-Christ? Quand ils sont sur le point de sombrer, Jésus-Christ a dit, mais attendez, mais vous comprenez, est-ce que vous avez compris? Beaucoup de nous, on sait les garçons, pas ce problème. Quoi? Jésus, pourquoi? Tu es où? Est-ce que tu es là? Tu m'as laissé? Bien-aimé. Changeons notre langage face aux situations. Et voyons comment Jésus va combattre aussi. Voyons ce qu'il va faire. Quelle est la réaction de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il va faire face à cette situation? Et ce que nous devons aussi faire? Qu'est-ce qu'il nous montre? Quel est ce template? Quel est ce format que Jésus-Christ montre dans cette situation? Verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Jésus-Christ a parlé. Jésus-Christ a parlé à la nature. Est-ce que nous parlons à nos situations?
Et même si on parle, quel genre de parole on dit? Ça, c'est important. Quand on est face à nos situations, est-ce que nous parlons? Si on parle, quel genre de parole? Est-ce qu'on parle à propos de notre situation ou on parle à notre situation? Il y a une différence. Et c'est pour bavarder, il y a beaucoup de gens qui parlent à propos des situations. En fait, s'ils prenaient le temps pour prier pour ces situations-là, sûrement ça serait été débloqué. Ils parlent plus à propos des situations que le fait qu'ils parlent à leur situation. Ici, Jésus-Christ a parlé à la situation. Mais ce n'est pas le fait de parler à propos, mais c'est de parler à la situation. Deuxième point, Jésus-Christ n'a pas dit, oh Dieu, interviens, descends, descends, oh, descends maintenant. C'est pas ce qu'il nous enseigne ici. C'est pas ce qu'il nous enseigne. Face à la situation, il n'a pas demandé, est-ce que c'est ta volonté? Si c'est ta volonté, ok, que ça vienne. Mais si ce n'est pas sa volonté, ça ne vienne pas. Mais il a reçu une parole depuis, il a dit, partons. La parole a été établie, il demeure à cette parole. Beaucoup d'entre nous, oh Seigneur, j'y vais. Descends, 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 descends. Dieu a dit qu'il y a de l'autorité. On marche, il y a dans l'autorité. Comme un policier qui arrive pour arrêter un camion, il appelle le QG. Oh, c'est pas possible. Envoyez plus d'autorité. J'ai besoin de plus d'autorité, plus d'autorité. Le camion est là. Tu as l'autorité. Oh. Ici, Dieu n'a pas, Jésus n'a pas demandé à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont une certaine doctrine qui pensent, oh non, si c'est la volonté de Dieu que ce malade, c'est lui qui doit rester comme ça. Bien aimé, il faut parler. Jésus qui se donne courage de parler. Il faut parler. Il a dit à l'autre bord, il avait reçu cette parole. Ne soyez pas confus quand ils sont au milieu des situations. Souvent, quand ils sont au milieu des situations, beaucoup de choses se passent. Et souvent, on oublie même la parole originale. On oublie cette parole de départ. C'est pour ça qu'il faut la garder. Les disciples avaient oublié. Ils avaient oublié carrément ce que Jésus-Christ a dit. Alors, on va continuer. Et si on entend un peu plus en profondeur, ici, vous voyez, Jésus-Christ n'a pas parlé à un démon. Il n'a pas dit démon du vent, pas. Il n'a pas dit demande la mer, pas. Donc, faisons attention à la stratégie un peu que Jésus-Christ a utilisée ici. Ici, il a parlé à la nature. Il a parlé à la création de Dieu. Parce que, vous savez, l'ennemi a utilisé la création de Dieu. L'ennemi a utilisé la nature pour causer un problème. Donc, il a détourné la nature de Dieu. Et bien-aimé, étant ambassadeur du royaume de Dieu, on a reçu cette autorité sur la nature. Notamment si en Christ, nous sommes les principaux, les puissants de l'esprit, les principaux, les puissants, les méchants, la domination. Il a mis tout sur les pieds de Jésus-Christ. C'est qui le croit, c'est qui les pieds, c'est l'Église. Tout a été mis sur nos pieds. Donc, on nous a donné cette autorité qu'on doit exercer. Donc, on peut exercer cette autorité sur la nature. Et deuxièmement, Jésus-Christ s'aligne avec la volonté de Dieu. Il y a beaucoup qui ont l'autorité, mais ils s'alignent par la volonté de Dieu. Est-ce que l'ange va obéir? Et ça doit s'aligner avec la volonté de Dieu. Si ça contredit, c'est difficile. Le verset, chapitre 4, verset 26, quand on lit ça, la version, la passion, c'est une version, ça dit ceci, silence, tout. Mets-toi à la volonté de Dieu. Dans le fait silence et tais-toi, ils ajoutent la silence qui traduisent soumets-toi à la volonté de Dieu. Donc, cette autorité, ce qu'on doit dire, ça doit s'aligner, ça doit être en alignement avec la volonté de Dieu. Jésus savait que la nature était utilisée contre son gré. Il savait que ce n'était pas la volonté de Dieu, que la nature a été saisie en otage. Donc, quand on voit les situations, l'ennemi de la nature, contre nous, bien-aimés, prenons l'autorité, demandons à la nature d'être soumise à la volonté de Dieu. On a cette autorité. Et si vous vous rappelez, la Bible dit que la création attend avec Adam dit la révélation des fils de Dieu. Mais c'est vous que la nature attend. Vous vous rappelez, quand le péché est entré dans Adam, la Bible dit que la nature s'est rébellée, que la création était prise en otage. Donc, si on est un vrai enfant de Dieu, cette nature attend qu'on parle, cette nature attend qu'on déclare la volonté de Dieu, cette nature nous attend pour qu'on déclare le royaume de Dieu sur la terre. Donc, nous sommes ce canal que Dieu utilise pour manifester sa volonté. Nous sommes ce canal que Dieu utilise pour manifester son règne. Et c'est ça que la nature utilise. Nous représentons le royaume de Dieu. Donc cette paix sur la terre, c'est à travers nous. Donc cette autorité de demander à la nature de reprendre sa place. Là où il y a le chaos, là où il y a des troubles, là où l'ennemi utilise la nature pour détruire, à cette autorité de dire que par la place où Dieu t'a demandé d'être. Avant qu'on entre plus en détail, donc je vais étudier son autorité avec détail. Il a dit parler, mais ce qu'il a dit au vent est différent de ce qu'il a dit à la mer. Il n'a pas dit aux deux de se taire, il n'a pas dit aux deux de se calmer. Il a utilisé différents langages. Rappelez-vous au verset en haut, on a dit que c'est un tourbillon qui s'est levé. Donc, il y a un agent qui était propagé. Il y a quelque chose qui a engendré ce problème. Derrière les problèmes bien-aimés, il y a une cause. Derrière les effets qu'on voit dans nos vies, les problèmes qu'on voit dans nos vies, il y a une cause. Il y a quelque chose qui a causé cela. En haut, le verset précédent, on a dit un tourbillon. Un tourbillon. Donc, dans ce cas, c'est pas ça, c'est pas une doctrine, mais il faut avoir, c'est pour ça qu'il faut te connecter pour le Saint-Esprit. Il faut la révélation du Saint-Esprit qui nous envoie dans les profondeurs pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Il faut que le Saint-Esprit ouvre les yeux pour qu'on comprenne, on sache comment parler. Ce ne sont pas que des tirs au hasard. Il faut des tirs de précision. Ici, Jésus-Christ a dit des paroles de précision. Ça va partir directement sur la cible. Et il faut être connecté à le Saint-Esprit. Donc, Jésus-Christ a réprimandé le vent. Il a dit, le vent qui était l'agent utilisé pour créer ce mal, le vent qui était utilisé pour agiter la mer, parce que la mer ne s'agite pas seule. C'est le vent qui agite la mer. Il a ordonné au vent de partir. Il a ordonné à la cause de se retirer. C'est la cause qu'on retire. Soit là, il y a certaines choses qu'on la mer. La mer n'avait pas de problème. C'est quelque chose qui a créé ce désordre. Il a dit à cela de se retirer. Et il n'a pas dit à la mer de partir. Il n'a pas dit à la mer, il n'a pas réprimandé la mer. Qu'est-ce qu'il a dit à la mer? Calme-toi. Il a dit à la mer, s'est calmé. Parce que le vent est parti, il n'y a plus ce trouble. Calme-toi, reprends ta position originale. Sois restauré. Repars où tu étais avant. Calme-toi. Sinon, ça se passe dans la délivrance. Pas pour une maladie, qu'on prie pour la maladie. On prie pour le corps qui est restauré. Le corps ne peut pas. Il y a une cause. Le corps est lié. Il y a une cause qu'on a mise. Et quand c'est un démon qui est là, quand on chasse le démon part. Il n'y a plus cette cause. Mais donc, qu'est-ce qu'on dit au corps? On demande au corps d'être restauré. Là, le corps se restaure. Parce que la cause est partie. La gigante est partie. On peut maintenant restaurer. Donc, il y a cette loi de cause et de l'effet. On cherche la cause. Quand la cause est partie, cet effet peut être restauré à sa position originale. Donc, bien, mais face aux situations dans nos vies, ah, c'est un exemple. Mais cherchons. Ayons cette relation avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous révèle. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? Quelle est la cause? Qu'est-ce qui doit être enlevé? Qu'est-ce qu'il faut être rejeté avant que le canal, la chose en question soit restaurée? Parce qu'on crise la chose, on crise la chose, on crise la chose, elle ne se restaure pas. Parce qu'il y a une cause qui est derrière. Qu'est-ce qui a causé cela? C'est quoi la cause? Et qu'est-ce que c'est une malédiction? Qu'est-ce qui a causé. C'est ça qu'on doit enlever. Donc, en utilisant cette stratégie bien-aimée, ça va nous permettre vers un combat victorieux. Donc, ce qu'il nous apprend, pas seulement d'aller face aux situations, de manager d'agir de cette autorité. Il faut prier pour les directions. En autorité, en pleine autorité. Et savoir qu'on a l'autorité sur la création, comme Jésus-Christ l'a dit. Et c'est qu'est-ce que vous aussi savoir que nous sommes appelés à manifester le règne de Dieu sur la terre. Nous sommes ce canal que Dieu peut utiliser pour manifester son royaume. Et je vais terminer avec ceci. Dans ce passage aussi, ce que Jésus-Christ a dit, calmez la main, le vent. Si vous voyez bien, verset 40, puis il a dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment avez-vous point de foi? Il est surpris. Il dit, mais en fait, je vous ai dit qu'on partait quelque part. Mais pourquoi vous tremblez? C'est quoi le problème? Verset 41, il fut saisi d'une grande frayeur et il se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Il ne savait pas qui était Jésus-Christ. Cette question, il ne savait pas qui était Jésus-Christ. Il ne savait pas l'identité de Jésus-Christ. Mais en fait, c'est intéressant parce que cette situation, Jésus qui dormait, avec la faiblesse, il dormait, ça les a poussés à se poser une question. Ce qui est important. Parce que souvent, pour comprendre quelque chose, c'est pas juste en recevant cette information. C'est nous en se posant cette question. C'est là qu'on a plus de compréhension. Quand vous partez enseigner quelque part, s'il n'y a pas de questions, vous ne savez même pas si votre message est passé. Mais qui a des questions, ça montre qu'en fait, oh, cette personne cherche à comprendre. Cette personne est curieuse. Cette personne cherche à concevoir une réalité. Dans cette situation, en fait, on a amené les disciples à poser une question qui est très importante. Qui est donc pour cette personne? Qui est donc pour que même le vent et la mer l'obéissent? Qui est donc Jésus? Et le miracle, c'est le miracle que Jésus-Christ a fait. On peut retrouver ça dans l'Ancien Testament. Il faut savoir que les disciples connaissaient l'Ancien Testament. Ils avaient le Torah. Ils connaissaient bien l'Ancien Testament. Et ici, l'audience, les gens, Marc, elle écrit en fait cet évangile. Ce sont aussi personnes, les Romains, ces gens qui vivaient là-bas, qui comprenaient aussi l'Ancien Testament, qui avaient l'idée de l'Ancien Testament. Et dans Somme 104, verset 4, elle dit ceci. Fais devant tes messagers et dis à la mer. Ici, s'arrêteront tes vagues orgueilleuses. Ça, c'est Job 38, verset 8 à 11. Mon Dieu. Ici, ça montre que c'est Yahweh, que c'est Dieu qui fait le vent des messagers. Que c'est Dieu qui ordonne le vent. C'est Dieu qui commande le vent. Et c'est aussi Dieu qui a autorité sur les vagues. Donc, les disciples se disaient, mais en fait, mais qui est cette personne qui a cette autorité comme Dieu? Donc, Jésus-Christ a utilisé cela. Marc a écrit cette partie pour révéler qui est Jésus-Christ. Bien-aimé, face à nos situations, face aux à nos tempêtes, face à des persécutions, Dieu veut aussi utiliser cela pour se révéler à nous. Dieu veut utiliser ces situations pour se révéler à nous, pour qu'on connaisse encore notre façade de lui, pour qu'on connaisse encore qui il est, encore notre qualité de lui. Donc c'est son amour, donc c'est sa fidélité. On sort d'une persécution, qu'on sort d'un combat, qu'on sort d'une épreuve, on sort d'un témoignage. Et ce témoignage révèle encore plus cette relation, cette identité de Jésus-Christ. Je vous donne ce message dans le nom de Jésus-Christ. Amen.